grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue en direct ou en podcast. Migraine, endométriose, douleur post-opératoire, fibromyalgie, syndrome de l'intestin irritable, cancer, rhumatismes inflammatoires, mal de dos. Les douleurs chroniques empoisonnent la qualité de vie d'environ 20% de la population. Près de 13 millions de Français souffrent. La grande majorité ne bénéficie pas de soins appropriés, des réponses thérapeutiques souvent inadaptées, des médicaments comme les antidouleurs à base d'opiacés qui pose de sérieux problèmes de santé publique et d'addiction et de graves répercussions sur la vie sociale, professionnelle et psychologique. Nous verrons ce matin quels sont les mécanismes de la douleur chronique, quels sont les différents types de douleurs, quelles sont les conséquences sur la vie des malades, quelles sont les prises en charge, les outils de prévention, les traitements prometteurs, bref, comment en finir avec la douleur chronique. Pour nous éclairer ce matin, la neurologue Carole Sereni, le médecin algologue Patrick Gignès et le rhumatologue Serge Perrault. Questions, témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Avec nous, comme tous les mardis, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et c'est vous qui assurez les choses vues cette semaine au programme.
Bah oui, je vais même vous faire des compliments d'ailleurs.
À tout à l'heure, Aurélia Schneider. Je suis preneur. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebi.
Bienvenue à tous nos invités. Bonjour docteur Carole Sereni.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital parisien Léopold de Bellan et vous venez de publier un livre très pédagogique, Douleurs chroniques et opiacées, c'est publié aux éditions du Cerf. Bonjour docteur Patrick Gignès.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin algologue, c'est quoi l'algologie ?
C'est pas l'étude des plantes, c'est l'étude de la douleur, mais c'est un nom qui vient du grec. Algain, en grec, ça voulait dire la douleur.
Vous êtes directeur du département douleurs psychosomatiques au CHU de Montpellier. Bonjour professeur Serge Perrault, vous êtes rhumatologue à l'Hôtel Dieu Cochin, vous avez publié chez InPress, La douleur, je m'en sors. Carole Sereni, on commence avec vous. Quel est le rôle de la douleur en général? C'est un signal d'alarme essentiel?
C'est un signal d'alarme, effectivement, la douleur aiguë, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le corps qui ne va pas et le système nerveux avertit l'organisme que effectivement, il y a un danger et qu'il doit faire quelque chose. C'est ça le but de la douleur et c'est essentiel. Les gens qui sont indifférents à la douleur, ça existe, une maladie génétique, eh bien en fait, ils ont du mal à survivre et il y a beaucoup d'entre eux qui décèdent dans les deux premières décennies de la vie.
Et il existe donc également des douleurs qui n'ont aucune fonction d'alerte.
C'est ce qui se passe avec les douleurs chroniques en général. C'est ça qu'on appelle la douleur chronique. C'est une douleur qui persiste alors même qu'elle n'a plus d'intérêt pour l'organisme humain ou pour l'organisme animal. Et c'est une sorte de virus informatique, quelque chose qui s'empare du cerveau et qui fait que on ne peut pas se libérer de la douleur et que alors qu'elle ne sert absolument plus à rien.
Qu'est-ce qui différencie donc une douleur aiguë, aïe je viens de me cogner le petit doigt de pied, et la douleur chronique, j'ai une migraine qui me prend la tête du matin au soir, professeur Serge Perrault?
Alors ce qui la différencie essentiellement c'est son impact, c'est-à-dire que la douleur aiguë en général va avoir un impact, c'est un signal d'alarme et puis si on la traite ça va disparaître, si on traite la cause. La douleur chronique ça va infiltrer toutes les dimensions de votre vie, votre métier, votre profession, vos relations sociales, vos relations conjugales, vos relations affectives, tous les domaines de la vie sont impactés et donc on ne voit plus que la douleur, on ne voit plus rien de la vie. Et là, bah, c'est bien sûr une prise en charge très différente. C'est pas avec un comprimé qu'on va supprimer cette douleur chronique. Il va falloir prendre en charge toutes ces dimensions impactées par la douleur.
Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de douleurs chroniques ?
Alors, beaucoup d'exemples de douleurs chroniques, hein, qui sont soit dans le domaine des maladies rhumatologiques, comme la lombalgie chronique, Voilà, soit dans le domaine des douleurs de la tête, les migraines, les céphalées, soit enfin les douleurs viscérales, il y a le côlon irritable ou l'intestin irritable, l'endométriose. Donc les douleurs chroniques sont multiples dans toutes les dans tous les domaines somatiques, dans tout l'organisme.
Docteur Patrick Gignès, vous dirigez un département hospitalier consacré aux douleurs psychosomatiques. Il y a souvent un contresens sur le terme psychosomatique.
C'est vrai, on ne sait pas comment nommer cette part existentielle qui va faire qu'on va bien contrôler des douleurs et qu'elles ne durent pas trop longtemps, ou au contraire se laisser envahir. Et pour résumer, la douleur aiguë alarme, mais la douleur chronique désarme. Et qu'est-ce que c'est qui désarme le sujet dans la lutte contre ce corps qui est altéré, abîmé? Tous les corps de 20 ans à 90 ans vont s'altérer. Certaines personnes vont pouvoir développer le système qu'on a tous en nous, de contrôle de la douleur, et d'autres vont, à certains moments de leur vie, pas pouvoir le mettre en place. C'est ça qui est le psychosomatique. Alors on change de nom, on l'appelle comme on veut, mais l'élément central, cérébral, de contrôle de la douleur est très important à comprendre de la part du public.
Et il y a un contresens sur ce mot psychosomatique, parce qu'on prend souvent ceux qui sont atteints de maladies psychosomatiques pour des malades imaginaires. Et ceux qui souffrent de douleurs chroniques ne sont pas des malades imaginaires.
Ce sont des malades très compliqués, qui souffrent énormément, physiquement, socialement, psychologiquement, et ils ne sont pas reconnus. Ça, c'est ça qui est le plus difficile. Alors, le psychosomatique est très mal vu par la population, par les médecins. C'est comme si on dit c'est dans la tête, ça n'existe pas. Mais c'est bien à partir de la tête qu'un système de contrôle peut agir contre la douleur chronique.
Carole Sérigny.
Toutes les douleurs sont dans la tête. Le cerveau, c'est l'organe qui génère la douleur, qui fabrique la douleur à partir d'un signal d'alarme. On a un système dans le cerveau qui fabrique la douleur, c'est-à-dire qui non seulement intègre les sensations qu'on a et leur met l'étiquette douleur, mais crée aussi tout un tas de retentissements sur l'humeur, sur l'attention, on est réveillé par la douleur, sur beaucoup de choses, même organiques, c'est-à-dire qu'on devient, le cœur s'accélère, la tension monte. Donc le cerveau fabrique quelque chose. Donc en ce sens-là, toutes les douleurs, quelle que soit leur origine, ont leur siège dans le cerveau.
Alors la douleur chronique est souvent difficile à décrire, avec souvent cette impression que personne ne vous comprend, Serge Perrault.
Oui, alors effectivement, la douleur, c'est aussi un problème de communication, hein, c'est un problème de lien. On l'a vu, le lien entre le corps et le cerveau, voilà. Mais c'est aussi un lien entre le patient et les professionnels de santé, les médecins. Et donc, pour évaluer une douleur qui est une expérience, hein, quand quelqu'un a mal, c'est une expérience. Eh bien, comment évaluer l'expérience de l'autre? C'est par la communication, que ce soit une communication verbale ou corporelle, hein, des signes, des cris, des grimaces ou des mots. Et ces mots sont parfois source de, je dirais, de malentendus. Comment on va exprimer sa douleur, comment on va la décrire, et puis quel temps les soignants vont prendre pour écouter leurs patients qui décrivent leur douleur. Ça, c'est un gros problème.
Patrick Gignès, sur la difficulté de décrire la douleur chronique, de décrire ce que l'on ressent dans son corps.
C'est quasiment unique à chaque individu. C'est dépendant de son histoire et c'est dépendant de la société dans laquelle il vit. Finalement, c'est aussi une communication non pas que intrapersonnelle, mais aussi sociologique. On souffre dans l'expression de la douleur en fonction de sa culture. On souffre même en fonction du regard social des autres sur soi. Donc ce paramètre-là est très important. J'allais dire les gilets jaunes, c'est une souffrance de la société, par exemple. Donc ils s'expriment. Et la douleur va parfois être exacerbée, donc pas comprise par l'autre, parce qu'elle reflète autre chose que le désagrément physique, mais parfois un désagrément moral, de souffrance existentielle, ancienne. Et c'est ça qui rend complexe l'évaluation de la douleur.
Carole Sérigny.
Oui, les populations qui souffrent socialement, sont aussi les populations chez qui se développe la douleur chronique. Par exemple, les réfugiés, des populations qui ont été déplacées, qui ont souffert globalement, vont être celles où la fréquence de la douleur chronique est la plus importante. Alors ça, c'est complètement contre ce que dit la société, qui dit finalement la douleur, c'est un truc de riches, de gens qui n'ont rien à faire, de femmes d'ailleurs, avec tout ce que ça représente de négatif, et en particulier la migraine. Moi, j'étais quand même très spécialisée dans la migraine. C'est vrai qu'on a toujours vu ça comme des dames qui s'ennuient et qui sont sexuellement insatisfaites. Ça n'a rien à voir, il faudrait le dire clairement,
ça n'a rien à voir. Bien évidemment. Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, les femmes, vous en parliez à l'instant, Carole Sérigny. 57% d'après les statistiques des patients atteints de douleurs chroniques sont des femmes. Alors, médicalement, j'allais dire, quelle est l'inégalité de départ entre hommes et femmes sur cette question-là? Est-ce que les hormones, notamment, évidemment, entrent en ligne de compte?
Les hormones jouent un rôle. Alors, on a pu le montrer de façon amusante, enfin intéressante si on peut dire, chez les gens qui sont transsexuels, qui donc passent, changent de genre. Quand on est au départ homme et qu'on va vers une identité féminine, qu'on prend des hormones féminines, en fait, on devient plus sujet à la douleur chronique. On a pu montrer que les douleurs chroniques augmentaient, la fréquence des douleurs chroniques augmentait avec l'apport d'œstrogènes. Et à l'inverse, les femmes qui sont en transition vers une identité masculine et qui prennent des hormones mâles ont moins de douleurs chroniques. Donc, il y a une part hormonale. Ce n'est pas tout, hein.
Plusieurs éléments, bien sûr. Il y a des éléments, je dirais, culturels. Les femmes ont peut-être moins honte d'exprimer leur douleur. Quand on va en consultation, quelle que soit la consultation, même pas forcément une consultation douleur, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes consultent plus facilement, et les hommes attendent une extrémité plus importante. Et puis, il y a aussi des phénomènes physiologiques. On sait qu'il y a une inflammation cérébrale. Il y a un tissu dans le cerveau qui s'appelle l'agli, qui est le tissu de soutien. Et ce tissu est plus enflammé chez les femmes. Il y a une hyperactivité qui est notamment favorisée par les hormones. Et de base, physiologiquement, les femmes sont plus sensibles à la douleur par cette inflammation cérébrale.
Et pour pas être misogyne, ça c'est évident que le seuil de sensibilité des femmes à la douleur est plus abaissé que chez les hommes. Mais on rajoute de suite, avec ce seuil plus altéré, plus cette perception plus aiguë de la douleur, elles ont une capacité de faire plus. C'est ce que montrent les études. C'est un peu comme ceux qui ont vécu les camps de concentration, qui sont plus douloureux en vieillissant que ceux qui n'ont pas vécu les camps de concentration, mais sont plus actifs et plus intégrés à la société, même dans le quatrième âge.
C'est un problème de santé publique encore trop souvent ignoré, les douleurs chroniques, Serge Perrault. Je m'adresse là au président de la Société française d'études et de traitement de la douleur.
Ex-président depuis quelques semaines, quelques mois.
Je viens de l'apprendre alors. Breaking news.
Voilà. Mais effectivement, c'est un gros problème, c'est un problème de société. On estime qu'il y a environ 12 millions de personnes douloureuses chroniques en France.
C'est énorme.
C'est énorme. On a 250 centres de la douleur qui péniblement arrivent à soigner 300 000 personnes sur les 12 millions, avec des moyens qui sont en diminution, des personnels en diminution, des centres qui vont disparaître.
Comment vous expliquez que ce ne soit pas une priorité de santé publique ?
Parce qu'on a toujours l'impression que la douleur, c'est en plus. On va d'abord soigner la maladie, on va soigner une polyarthrite, on va soigner un cancer. Et puis, heureusement, maintenant, un certain nombre de cancers sont guéris, mais les patients, pour autant, continuent à souffrir.
Et pourtant, Carole Serini, la douleur chronique a un coût économique et social absolument énorme.
C'est un coût énorme. On a des statistiques pour plusieurs pays. Par exemple, aux États-Unis, on sait que la douleur chronique coûte beaucoup plus cher que toutes les maladies cardiovasculaires réunies et cérébrovasculaires. Et le pourcentage du PIB qui est consacré à la douleur chronique est autour de 2% dans les pays où ça a été mesuré. Donc c'est un coût énorme et qui d'ailleurs ne concerne pas que les pays riches, parce que ça coûte aussi très cher dans les pays moins riches, en particulier en Afrique, où il y a d'énormes problèmes d'addiction.
Le regard de notre psychiatre Aurélia Schneider.
Oui, alors moi je voudrais revenir sur l'histoire des douleurs des femmes. Indépendamment de l'endométriose qui peut être un enfer absolu, j'ai quelques patientes qui me racontent des histoires épouvantables, eh bien les femmes sont quand même pas mal habituées à la douleur. Parce que les douleurs de règles, chez une partie d'entre elles, sont des douleurs assez importantes et ça revient drôlement souvent. Tous les mois, pendant au moins 3-4 jours et parfois pour certaines nécessitant des prescriptions d'opiacés. Je suis étonnée, et donc de la résistance, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, des femmes qui sont capables de faire leur boulot, leur truc, alors qu'elles peuvent être un peu fracassées de douleur.
Je pense que c'est une raison sociologique, justement, de cette résilience supérieure des femmes par rapport aux hommes. Parce que les femmes ont 4 à 5 fonctions. Elles sont mère, épouse, travailleuse, et toujours femme.
Et bien d'autres choses.
Voilà. Les hommes, 1-2 fonctions, après on est fatigué.
Et on reviendra tout à l'heure sur le problème des opiacés, bien évidemment. Nous attendons toutes vos questions et vos témoignages sur les douleurs chroniques au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Claire Destacant.
Wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They just gonna tell you that it wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're not here, that's not original. Send a call, all right, let's go now.
Jungle, interprété Casio.
Oh putain!
Qu'est-ce qui t'arrive?
Grand bien vous fasse.
Excusez-moi, je ne me lève pas, je suis complètement bloqué, je me suis fait un tour de rein.
Sur France Inter.
10h25 et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur les douleurs chroniques. Trois médecins pour vous répondre. Carole Sereni, Patrick Gignès et Serge Perrault. Alors, deux courriels, deux messages intéressants. Nicolas qui nous dit, j'ai une névralgie depuis un an. Personne n'y fait rien. Envoyé de service en service, de spécialiste en spécialiste. Mon travail est compliqué, ma vie personnelle aussi. Je suis bourré de cachets et qui ne m'aident pas. Et puis, Fanfan nous dit, après la pause, il y a 5 mois d'une prothèse totale genou-hanche, les douleurs sont très présentes. Douleurs des articulations, des tendons et des muscles jusque dans le pied. Hier, j'ai été taxé d'hystérique par une amie et elle m'a demandé d'effectuer un suivi avec un psychiatre. Voilà, douleur morale qui s'ajoute à la douleur chronique. Voilà, on a, c'est assez représentatif de ce qu'on reçoit hein, d'auditeurs qui nous disent on ne me comprend pas, on prend pour un dingue, pour le dire vite. Patrick Gignès.
Oui, c'est pour ça que la douleur n'est pas facile à traiter. On peut se mobiliser parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas l'échec. Et finalement, ces patients-là, qui ont eu par exemple une prothèse de genou, 80% des prothèses fonctionnent. Il y a 20% qui ne sont pas des échecs, mais le résultat n'est pas parfait. Et en fait, on aborde là le sujet avec vos deux exemples de la douleur neuropathique. Difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est ? Toute lésion d'une partie du système nerveux périphérique, c'est-à-dire là pour la prothèse, ou centrale si c'est proche du cerveau, toute lésion, même minime, peut déclencher une douleur qu'on appelle douleur neuropathique. C'est pas facile à vendre, à expliquer ce phénomène-là, parce qu'elle est particulière, elle est rebelle, on n'a pas une thérapeutique suffisamment facile et efficace à mettre en place, donc ça va être un long accompagnement, et le patient ne comprend pas puisqu'elle n'est pas visible en plus cette douleur. La cicatrisation est parfaite, la prothèse est excellente, mais la séquelle de douleur est mémorisée dans les nerfs.
Carole Serini, je rappelle que vous publiez « Douleurs chroniques et opiacées ».
Oui, les douleurs neuropathiques, c'est notre quotidien dans le traitement des douleurs. Et c'est probablement une des choses les plus compliquées à traiter. Parce qu'en fait, le système nerveux, quand il est lésé, dit qu'il y a une douleur, dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, comme vous disiez, alors que les choses même peuvent être tout à fait normales et guéries. Alors ça existe, il y a plein de douleurs neuropathiques, toutes les névralgies sont des douleurs neuropathiques. Après les soins dentaires, il y a 6% des gens, après un soin dentaire majeur, qui vont continuer à souffrir pendant peut-être des années, et de façon des fois intolérable. Personne n'y comprend rien. Les stomatologues pensent qu'ils ont bien fait leur travail et que bon, c'est, il y a pas de, le malade ne devrait plus se plaindre. Et c'est ça qui est terrible aussi, c'est que souvent les patients, ils se sentent même eux-mêmes culpabilisés. Ils disent pourquoi est-ce que j'ai mal? Il n'y a pas de raison que j'ai mal.
Serge Perrault, je rappelle vous que vous publiez La douleur, je m'en sors. Comment une douleur devient-elle chronique? Comment une douleur aiguë devient chronique?
Une douleur aiguë devient chronique, on sait que c'est assez fréquent, notamment après la chirurgie. On estime qu'après les chirurgies, entre 10 et 50% des chirurgies sont associées à des douleurs chroniques. Par exemple, la chirurgie du sein, c'est 40 à 50% de douleurs chroniques. Après une hernie inguinale, c'est 10%. Donc toutes les chirurgies sont associées à des douleurs chroniques et les chirurgiens sont parfois... ils connaissent peu ces douleurs et ils informent peu leurs patients. Mais les facteurs de risque, ils sont multiples. Ils peuvent être liés à la chirurgie, ils peuvent être liés aux patients, des facteurs de risque psychologiques, des facteurs de risque locaux, et puis aussi aux médicaments. Et on parlait des opioïdes. Avoir pris de la morphine pendant des mois est aussi un facteur qui va favoriser les douleurs chroniques.
Carole Serini, prenons l'exemple du lombago. En général, 90% des patients guérissent après un traitement et reprennent une activité normale, mais pour certains, une minorité, la douleur persiste plus de 3 mois. Pourquoi certains récupèrent vite et d'autres pas du tout?
Il y a une part de mystère. On a des facteurs statistiques qui montrent que quelqu'un est à risque de développer une douleur. Comme vous venez de le dire, le fait d'avoir été traité pendant longtemps avec des opiacés fragilise. Le fait d'avoir des problèmes personnels importants, d'être au chômage, d'être isolé, fragilise. Le fait d'avoir eu des traumatismes psychologiques ou physiques dans l'enfance fragilise. Tout ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut faire un algorithme et dire « Ah, voilà, cette personne-là va souffrir et cette personne-là va guérir ». C'est pas vrai. On est toujours un peu surpris. Et il y a une chose quand même maintenant qu'on reconnaît qui est très importante, c'est l'importance de l'activité physique. C'est sûr que quelqu'un qui va être très inactif, qui va avoir très peur de bouger après son lumbago, qui va éviter tout mouvement, se met en danger de développer une douleur chronique.
La grande coupable qui transforme peut-être une douleur aiguë en douleur chronique, c'est la neuroplasticité. Carole Serini, expliquez-nous un petit peu.
La neuroplasticité, c'est le fait que le système nerveux se transforme. Il se transforme tous les jours. On n'est jamais tout à fait identique dans notre cerveau d'un jour à l'autre. Parce qu'on a appris quelque chose, parce qu'on a vécu quelque chose, parce qu'on a senti quelque chose se passe dans le cerveau et ça reste là. Et la douleur, c'est une expérience très importante et pour le cerveau, ça va être un facteur majeur de transformation, c'est-à-dire que les voies de la douleur vont être comme musclées par le fait que la douleur persiste. Petit à petit, de plus en plus de structures cérébrales vont se mobiliser, vont participer à l'élaboration de la douleur. Et c'est pour ça que la douleur chronique, comme on l'a déjà souligné, comme mes collègues l'ont souligné, c'est quelque chose qui envahit de plus en plus de choses dans la vie. On est de plus en plus obsédé par la douleur parce que le cerveau, en fait, le fait tout seul. C'est pas du tout que les patients s'écoutent comme quelquefois on l'entend. C'est un mécanisme automatique.
Patrick Gignès.
Oui, il faut prendre des comparaisons peut-être pour expliquer. Si on a un virus qui atteint un ordinateur, peut-être 3 jours avant ou 2 jours après, le virus n'aurait pas bloqué le système informatique. On peut dire que là, une douleur aiguë, dans un scénario particulier, va bloquer le système d'adaptation au corps altéré. Et ce système va malheureusement impacter tous les logiciels dans la tête. On a des logiciels pour contrôler la douleur physique. On a des logiciels pour contrôler les éléments émotionnels. On a des logiciels pour contrôler l'aspect social d'une douleur. Eh bien, ces logiciels sont parasités par une émotion, peut-être un détail dans une époque post-opératoire ou dans un sciatique. Et ce détail-là va modifier complètement tous les logiciels et s'imprimer et rendre défaillants tous les systèmes d'adaptation qui, 3 ans avant, 2 ans après, auraient très bien fonctionné.
Est-ce qu'on peut dire que la perception de la douleur dépend du degré d'attention qu'on lui porte, de son humeur, de son état de fatigue ? Serge Perrault.
Oui, bien sûr. Certains considèrent même que la douleur, c'est un problème d'attention. Il y a une aire dans le cerveau, l'aire singulaire antérieure qui participe à l'attention. Et quand on la module par des techniques de modulation cérébrale, on peut réduire l'attention portée à sa douleur et réduire la douleur. Donc la douleur, c'est aussi l'attention qu'on y porte. Mais de la douleur à la souffrance, c'est autre chose. Et souvent, on est plus, nous, associés à la souffrance. C'est quoi la différence ? La douleur, c'est « j'ai mal ». La souffrance, c'est « je suis mal ». Et nous, médecins de la douleur chronique, on va être plutôt associés à « oh, j'ai mal » qui est devenu « je suis mal ».
Aurélien Schneider.
Oui, il y a aussi une autre chose. Je trouve que les patients sont affectés par le fait de ne pas contrôler leur corps. Parce que ça nous échappe. Et il y a cette dimension d'absence de contrôle. Alors déjà, voir un médecin impuissant, on attend beaucoup d'une consultation. Et quand on s'aperçoit que ça ne va pas aller aussi bien qu'on pensait, c'est difficile. Mais il y a cette idée qu'on ne contrôle pas ce qui nous arrive. Et ça rajoute, je pense, au dossier.
Moi, j'aime bien dire aux patients que la douleur, c'est un problème de lien entre le corps et le cerveau et qu'on va remettre ce lien, qu'on va remettre le contrôle du cerveau vers le corps, c'est-à-dire contrôler justement les émotions et voir comment, avec la méditation, avec tout ce qui est le cerveau, on va pouvoir donc ressentir son corps et de la même façon, par l'exercice physique, traiter le cerveau et toutes ses émotions, donc remettre du lien entre les deux.
Bonjour Angélique.
Bonjour.
Vous appelez de La Roche-sur-Yon, bienvenue.
Merci.
Alors, vous êtes atteinte d'endométriose, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, expliquez-nous un petit peu vos douleurs chroniques.
Alors, j'en ai plus maintenant, mais ça a duré pendant plus de 10 ans, en fait. Entre le moment où la maladie a été détectée et où les médecins ont été d'accord pour dire qu'il y avait bien cette maladie, parce qu'avant, j'entendais souvent, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, oh, vous en faites un peu trop, il n'y a rien, finalement, c'est dans la tête. Et où j'ai été prise en charge par des médecins très compétents à l'hôpital de Nantes. Il s'est passé à peu près 10 ans. Donc 10 ans où tous les mois, il y avait des douleurs physiques très importantes et où il y avait très peu d'écoute, en fait. Il y a plein de personnes qui pensaient que c'était du chiquet et que voilà, il se passait pas grand-chose et que j'en faisais trop. Donc, et à la fois la douleur physique et le fait de pas être entendue et de pas maîtriser, comme vous disiez il y a un instant. Donc désormais j'ai un traitement qui s'arrêtera à la ménopause. J'ai 40 ans donc j'en ai encore pour quelques années. Mais en tout cas, ce qui a été complètement fou après mon opération, c'est que j'ai vécu sans douleur. Et donc on s'aperçoit que pendant 10 ans, eh ben, on s'y fait à la douleur. On sait qu'on va avoir mal. Alors en plus, on psychote un petit peu parce que à chaque fois que les règles vont arriver, on se dit « Ah, ça va être terrible, donc peut-être que ça ajoute ». Mais le fait, après cette opération, de ne plus avoir mal, c'est un révélateur. On se dit, mais c'est une vie qui est complètement différente, quoi. Ça a tout changé.
Témoignage très intéressant d'Angélique, Serge Perrault.
Oui, témoignage intéressant déjà sur le délai, 10 ans pour attendre. Et on sait que pour voir un centre de la douleur, consulter en moyenne, c'est 5 ans en France. Les médecins connaissent pas les centres de la douleur, les patients non plus. Donc on a des spécialistes qui évaluent votre douleur, qui vous la soignent. Donc c'est les centres de la douleur, il faut les faire connaître. Et puis témoignage important, surtout d'un coup, plus de douleur, c'est possible. Avec juste un petit bémol, pas penser toujours que supprimer la lésion va supprimer les douleurs. On va pas opérer une douleur, on va opérer une lésion et peut-être que ça va améliorer la douleur, mais pas toujours.
Carole Serini, sur le témoignage d'Angélique.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment entendu tout le temps. C'est des gens qui disent « c'est une autre vie ». Je ne me rendais pas compte, mais j'étais dans un pays affreux, ou qui est le pays de la douleur, et j'y suis rentrée sans m'en rendre compte. Et puis maintenant, je n'ai plus mal et tout d'un coup, les choses sont complètement différentes. C'est comme si j'étais sortie de prison.
Patrick Gignès.
Oui, ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'elle n'a pas été écoutée pendant des années. Alors là, on a fait les 30 glorieuses en médecine, où on avait cru pouvoir guérir simplement, avec un diagnostic, un traitement, toutes les maladies. Et quand les patients, 20% des patients, dans toutes les disciplines, en gynécologie, comme en gastro-entérologie, ou en cancérologie, vont développer quelque chose qui résiste au simple protocole habituel qui marche, c'est 8 patients sur 10. Et cela, la médecine, les médecins, les soignants n'ont pas appris peut-être à les écouter. Alors que c'est la première démarche, croire et écouter.
Merci beaucoup Angélique pour votre témoignage très éclairant. Dans quelques instants, nous verrons quels sont les traitements médicamenteux et non médicamenteux que l'on peut appliquer pour surmonter les douleurs chroniques. Et en attendant, on retrouve le docteur Aurélien Schneider et ses chaussures.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Et elle est bien psychiatre, Aurélia Schneider.
Alors, ce qu'il y a de bien dans un sujet comme la douleur, c'est que tout le monde connaît. On l'a dit, mal à la tête, mal aux dents, au ventre. Et donc, normalement, ça passe, sauf si ça dure plus de 3 mois. Et dans ce cas, on parle de douleur chronique. Et cette douleur est soit permanente, comme un bruit de fond, soit elle est fluctuante, avec des hauts et des bas. Et quelles que soient leurs origines, ces douleurs persistantes nous envahissent et nous plombent. Les conséquences sont multiples. La fatigue, le handicap, on peut être anxieux, irritable, déprimé et même suicidaire. Et sur le plan cognitif, on est prisonnier d'un véritable système, un cercle vicieux, avec la peur de souffrir, la peur que ça ne s'arrête pas et que l'on ne puisse pas être soulagé. Et si la douleur se calme, on est obsédé par la crainte qu'elle revienne, que ce soit de nouveau l'enfer, et cette anticipation est telle que l'on n'ose pas se réjouir d'être dans le paradis. De l'intervalle libre. Les conséquences sont aussi sociales. On en a parlé, mais c'est surtout l'isolement. Renforcé par la baisse des activités physiques, on craint de se faire encore plus mal ou d'être rejeté par les autres puisque nos performances sont limitées. Donc comment faire pour sortir de cette boucle douloureuse? Car même si la prise en charge de la douleur a beaucoup progressé, de nombreux patients ne reçoivent pas un traitement approprié. Et la tentation de l'automédication est grande, mais dangereuse. On peut faire des overdoses liées au phénomène d'accoutumance par le besoin d'augmenter les doses pour atteindre les mêmes effets avec certains médicaments dont nous parlerons peut-être tout à l'heure.
Sans doute.
À mon avis, il ne faut pas gaspiller son énergie à combattre la douleur. Elle occupe déjà suffisamment le terrain. Si on se focalise dessus pour la faire disparaître, ça ne marche pas. Et cette lutte risque de renforcer cette douleur. Il faudrait admettre de rester avec, l'observer et travailler sur les points douloureux grâce à des techniques d'hypnose ou de pleine conscience qui permettent de modifier notre ressenti et nos perceptions et d'améliorer notre qualité de vie. On pourrait aussi la considérer comme un baromètre, une alliée qui nous informe que nous allons trop loin et qui va nous aider à prendre soin de nous, à nous économiser et à gérer notre fatigue. On peut se réconforter en pensant que ça ne va pas durer toujours, qu'il y a des variations et surtout, penser à profiter d'un moment de répit quand cela va mieux, être sensible aux petites choses positives offertes par notre quotidien. Et il faut se distraire. Regarder une série télé, voir du monde, une bonne soirée avec des amis, c'est important. Rire, c'est une vraie thérapie. Enfin, garder une bonne relation avec son corps. On est tenté, lorsqu'on a mal de façon durable, de considérer son corps comme globalement défaillant et hostile. C'est dommage. Indépendamment de la douleur, il y a toutes les autres fonctions vitales de notre organisme qui continuent courageusement de faire leur boulot. On oublie trop souvent de se remercier, d'être capable de marcher dans la rue, de respirer ou même tout simplement de digérer. D'ailleurs, c'est un exploit de se lever le matin et de vivre un quotidien douloureux. Il faut en être conscient et fier. Cela aide à restaurer une estime de soi souvent défaillante dans ces situations. Vous savez, chère Ali, je suis prête à parier que de nombreux auditeurs oublient qu'ils ont mal quelque part quand ils écoutent vos super émissions. Alors, s'il vous plaît, continuez.
Merci, Aurélia Schneider. Je vous file le chèque après. Les choses vues d'Aurélia Schneider à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Qui veut réagir, tiens, autour de la table sur, tiens, Patrick Gignès, vous avez écouté avec beaucoup d'attention.
Oui, beaucoup d'attention parce qu'en fait, c'est comment le soignant ou ceux qui veulent donner des conseils aux gens qui souffrent peuvent les aider à réveiller en eux des propres armes contre la douleur. Et c'est cette relation thérapeutique nouvelle, c'est pas de trouver le médicament, c'est re-empowerment, comme disent les Américains, c'est retrouver du pouvoir chez le patient pour lui-même faire une stratégie, ça qui est compliqué.
Serge Perrault.
C'est exactement ça. On aide nos patients à élaborer leur propre stratégie. Moi, je leur dis souvent, la douleur a horreur du vide. Chaque fois que vous allez vous résigner, abandonner une activité, un plaisir, la douleur va prendre encore plus d'ampleur. Donc l'objectif avec eux, c'est de reconstruire pied à pied et de reprendre du terrain sur la douleur.
Carole Serrini.
Ça me fait penser à une étude qui a eu lieu en Australie. Justement, si on écoute les gens douloureux, on a des surprises. Il y avait un centre de la douleur. Ils ont demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez être soulagé de votre douleur en premier par des médicaments ou autre chose? Et en fait, c'était autre chose qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est retrouver une bonne forme physique. Ils voulaient maigrir, ils voulaient faire plus d'exercices, ils voulaient se sentir mieux dans leur corps. Et c'était ça qui comptait. Et en fait, les gens de ce centre d'antidouleur, ils n'avaient absolument pas prévu, il n'y avait pas un diététicien, il y avait peu de psychothérapeutes, il y avait essentiellement des gens qui donnaient des médicaments. Et ce n'est pas ce que les gens voulaient.
Patrick Génies.
C'est vrai qu'il ne faut pas attaquer la douleur de front, de face. Elle nous a déjà fait perdre nos moyens, il faut donc contourner l'obstacle. C'est vraiment une stratégie, et c'est ça qui est passionnant, parce que chaque rencontre de patient, il va nous donner aussi des idées pour aider les autres, et des idées pour trouver en lui des capacités de sortir de cette douleur chronique.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42 et nous attendons toutes vos questions sur les douleurs chroniques. Alors, j'ai trois médecins autour de la table. Quels sont les différents types de traitements médicamenteux que vous proposez à ceux qui souffrent, professeur Serge Perrault? Quels sont les médicaments de première intention?
Il faut d'abord dire qu'on n'a pas beaucoup de médicaments pour la douleur. Et puis quand on parle de médicaments, c'est des médicaments de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Nous, on n'est pas des médecins de la modernité. On utilise des médicaments qui ont 6000 ans, la morphine, le cannabis, des médicaments qui ont 100 ans, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs. Donc on est vraiment avec une panoplie qui n'est pas très large et puis qui n'est pas très moderne et qui finalement n'est pas non plus très efficace. Donc il faut faire avec et il faut surtout se dire que c'est pas le médicament seul qui va aider, c'est le médicament plus d'autres choses, voire d'abord autre chose, plus le médicament. Et dans les médicaments, on a deux grandes classes. Les médicaments qui coupent le circuit de la douleur, on appelle ça les antalgiques classiques, la morphine, les anti-inflammatoires, le paracétamol. Et puis les médicaments qui vont moduler la douleur, les antidépresseurs, les antiépileptiques. Et avec le patient, on va construire comme ça un projet qui mêle les médicaments, les deux types de médicaments, et puis surtout les autres approches.
Et Carole Serrini?
Oui, les médicaments, comme c'est souvent décevant. Les antalgiques, c'est très très bien pour la douleur aiguë. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est important, ça marche. Mais pour la douleur chronique, on n'a jamais montré que un médicament seul puisse faire une grosse différence pour la qualité de vie de la personne qui souffre à long terme. C'est ça le problème. Pour l'instant, on est en recherche d'un médicament qui puisse faire ça, qui puisse faire que, en le prenant 3 mois, 6 mois, les gens aillent réellement mieux. On n'a rien actuellement qui fasse ça.
Et pourtant, les recherches sont énormes sur la douleur. Et quand on est ensuite des recherches sur les rats, les animaux, on a des succès. Et quand on passe à l'homme, on est déçu. C'est ce qui s'est passé depuis 40 ans. C'est très dur pour nous, algologues, finalement. Mais ce qui est positif, c'est que malgré tout, les médicaments doivent être testés. Quand on a une douleur aiguë, bien sûr, mais quand on a une douleur chronique, on doit en tester quelques semaines, quelques jours. Et s'ils ne marchent pas, il ne faut pas les pérenniser. Ça a été le gros scandale américain où il y a eu un excès de prescriptions. Et là, je voudrais, Ali, que vous lanciez un hashtag.
Oui.
On nous supprime presque tous les médicaments de la douleur à cause du risque potentiel de chacun d'entre eux. Ça, soit, mais qu'est-ce qui va rester? On nous a supprimé le Diantalvic. Et moi, je voudrais que le Diantalvic revienne. Les Anglais le connaissent, ce médicament.
Pourquoi?
Parce qu'il est supprimé parce que les Anglais se suicidaient avec ce médicament. Mais pas le reste des pays de l'Europe. La pharmacovigilance en France était tout à fait positive pour ce médicament. Il a été supprimé. Un jour, le tramadol est très attaqué. Le paracétamol, si on lit certains sujets sur Internet, il faut vraiment jamais en prendre. Alors, je veux bien, il faut faire attention à tous les médicaments. La bonne prescription, l'éducation des patients et des professionnels est très importante. Mais il faut modérer la durée de prescription quand c'est inefficace et savoir les arrêter. On ne sait pas arrêter les médicaments. Et surtout, ne pas supprimer tous les médicaments. Le Diantalvic, faites un appel pour qu'il soit réintroduit. Je ne sais pas si administrativement c'est possible.
Et je précise que vous n'êtes pas, Patrick Génies, un pro-médicament aveugle, parce que dans votre centre à Montpellier, votre centre hospitalier, vous militez pour les approches complémentaires, exactement, la méditation de pleine conscience, exactement, etc.
Mais sans faire exclusive des techniques qui peuvent aider.
On ne connaît pas encore les conséquences à long terme de ce qui est déjà une épidémie. Aux États-Unis, un bébé naît toutes les 20 minutes intoxiqué aux opioïdes. Des médicaments antidouleurs extrêmement puissants et addictifs. Développés à l'origine par des laboratoires, vendus légalement et prescrits en masse pour des douleurs chroniques comme l'arthrose ou le mal de dos, ils n'épargnent personne, de la naissance à la mort. Ce sont ces mêmes molécules qui provoquent à travers le pays des overdoses en série, en plein jour, en pleine rue. Ce ne sont pas les profils habituels de toxicomanes, mais des citoyens ordinaires. Les opioïdes tuent près de 200 Américains chaque jour, 72 000 en 2017. C'est plus que les armes à feu et les accidents de la route combinés.
Reportage de Pierre Monégier d'Envoyé spécial sur France 2. Quels sont les risques d'une catastrophe sanitaire comparable à celle des États-Unis dans notre pays, Carole Serini?
À mon avis, les risques sont moindres, grandement moindres dans notre pays, parce que les médecins n'ont pas du tout les mêmes régulations et n'ont pas non plus les mêmes récompenses. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a eu un énorme problème de corruption des médecins. Mmh. Les laboratoires ont fait, certains laboratoires ont fait tout pour augmenter leurs profits. Il y a une note quand même d'un président de laboratoire qui dit « Ah, ce produit est addictif ». Tant mieux, ça va augmenter nos ventes. Il y a une note qu'on a pu retrouver, un email. Et ils ont payé les médecins pour distribuer les médicaments. En France, tout ceci est à peu près impossible. On est beaucoup trop contrôlé. Et plus probablement, les Français sont un peu différents des Américains aussi, ont moins cette tendance à consommer de la médecine comme n'importe quel produit. Il faut oublier qu'aux États-Unis, les gens riches, ils achètent la médecine, ils achètent les médecins comme ils achèteraient une Ferrari.
C'est vrai. Ils n'ont pas, en Amérique, des émissions « Grand bien vous fasse
». Peut-être.
Où on vient de parler, non mais c'est impossible ça, on vient de parler d'éléments du pouvoir du patient, de retrouver des activités différentes pour faire la douleur. Ils ont dit « La souffrance, c'est physique, donc contre l'aspect physique, il y a la morphine et j'augmente les doses ». On n'a pas du tout le même principe.
Serge Perrault.
Juste à dire que la médecine de la douleur, c'est une vraie spécialité médicale et que si les laboratoires peuvent comme ça faire de la formation aux médecins, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de formation faite par des universitaires. Et moi, je prône pour que la médecine de la douleur soit une vraie spécialité universitaire. Nous formerons les bons médecins aux bonnes pratiques et c'est pas les laboratoires qui vont nous former.
Et est-ce que les opiacés, les opioïdes sont efficaces pour traiter les douleurs chroniques?
Heureusement que les opiacés existent, hein. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il y a encore un certain nombre de patients atteints de cancer qui devraient avoir de la morphine et qui n'en ont pas. Donc c'est aussi l'autre extrême. Et tout le continent africain, il y a des patients entiers qui souffrent, atteints de cancer, de brûlures, de douleurs extrêmement importantes et qui n'ont pas accès à la morphine. Donc c'est un problème américain, peut-être en France aussi, mais c'est pas le problème du tiers-monde où là, c'est un vrai scandale de ne pas avoir accès à la morphine.
Question de Marie-Laure Zonchain, de Femme Actuelle.
Oui, il y a une piste aussi à développer que peut-être des patients ne connaissent pas, ce sont les séances d'éducation thérapeutique qui permettent aux patients de comprendre la maladie, d'acquérir des compétences pour apprendre à la gérer, de l'automesure, de l'autosurveillance, même des gestes qu'ils peuvent pratiquer eux-mêmes, si on peut dire, comme l'injection d'insuline pour ceux qui sont concernés. Mais est-ce que ces séances sont développées? Est-ce qu'elles sont simplement même connues des médecins déjà eux-mêmes?
Connues, pas tout à fait, mais toutes les spécialités ont vu que pour faire des progrès dans chacune des branches de la médecine, il fallait rajouter cette composante, l'éducation thérapeutique. Donc faire du patient un partenaire actif qui comprend la maladie, qui comprend cette spécialité dans laquelle il est rentré par la gastro-entérologie, la neurologie ou la rhumatologie, et qui va aider le médecin donc à trouver les bonnes stratégies. Et cette implication vraiment du patient, ça s'appelle l'éducation thérapeutique. Elle est pour l'instant réservée à des protocoles validés par l'ARS, donc c'est quand même bien reconnu maintenant. Mais il faut que chaque médecin, dans sa consultation, introduise ce pendant particulier, 5-10 minutes à la fin de la consultation ou au début, pour que le patient comprenne que c'est ça qui va faire le progrès dans la qualité de vie. Et ce n'est pas que l'action puissance médicale.
Serge Perrault.
Oui, on fait des programmes d'éducation thérapeutique, mais ça concerne peu de patients. Sur les 12 millions, ça concerne 20 000, 30 000 patients. Donc c'est très peu de patients qui ont accès à ces programmes d'éducation thérapeutique.
Bonjour Yann, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors vous, Yann, vous souffrez de douleurs chroniques et plus particulièrement de fibromyalgie. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et nous expliquer ce que vous ressentez, Yann?
Alors, ce que c'est, je pense que vos invités en ont beaucoup parlé par rapport aux douleurs chroniques, donc je suis en plein dedans.
Expliquez-nous ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas ces douleurs.
Ce sont des douleurs que j'ai en permanence, mais qui sont complètement aléatoires, et qui particulièrement me touchent sur tout le corps. Mmh. Ils font comme des brûlures, des raideurs, qui m'empêchent énormément d'avoir une vie comme j'avais avant. Mmh. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs qu'une vie sans douleur. Mmh. Mais qui en plus ont ce côté très très aléatoire. Genre, je peux être bien, à peu près bien pendant la matinée par exemple, puis 2 heures après déclencher des douleurs au point de ne pouvoir marcher tellement j'ai mal partout. Et puis le lendemain être très très bien. Ça c'est très compliqué à gérer.
Quel est l'impact de votre fibromyalgie sur votre vie personnelle et professionnelle ?
Sur ma vie professionnelle, hélas, depuis 7 ans, je suis en congé longue maladie. Mmh. J'étais enseignante et je suis dans un combat compliqué pour justement arriver à me faire reconnaître par l'éducation nationale dans la validité. Mmh. Je ne peux plus être devant des élèves. Dans la vie familiale, je me suis adaptée petit à petit avec, comme me disait très bien Aurélia tout à l'heure dans sa chronique, apprendre ma maladie, essayer de faire plein d'autres choses à côté pour essayer de gérer la douleur avec moi.
Quel traitement médicamenteux avez-vous suivi ?
Alors malheureusement, j'ai testé le tramadol.
Donc c'est un opiacé.
Oui, l'opiacé que j'ai eu pendant un temps beaucoup trop long, mmh. au point que je me suis rendu compte que j'en étais complètement addict. Et contrairement à ce que voulait reconnaître mon médecin. Mmh. Et puis j'ai décidé de le supprimer parce que l'addiction m'a fait peur. Et ensuite, j'étais arrivée à un stade où je prenais tellement d'autres choses à côté de prise en charge parallèle que je voulais savoir finalement si je pouvais m'en débarrasser. Mmh. J'ai mis 3 mois pour me sevrer, ça a été très très difficile.
Vous avez essayé d'autres approches comme la méditation de pleine conscience, mmh. la relaxation. Ça vous a aidé peut-être ce type d'approche ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends plus le tramadol, il me faut absolument faire tout ce que je fais à côté, c'est-à-dire balnéothérapie, kiné, je fais du qigong, je fais de la méditation, je me suis mise un peu au piano. Si j'arrête ce cycle-là d'aide parallèle, mes douleurs reviennent vraiment très très vite.
Pourquoi, Patrick Gignès, le fait de pratiquer la méditation de pleine conscience, des exercices de relaxation, est-ce que c'est aussi efficace, entre guillemets, même si Yann continue à souffrir, pour lutter contre les douleurs chroniques ?
Oui, c'est une dans la phase de compréhension existentielle de cette maladie, c'est une façon de se positionner autrement vis-à-vis de son propre corps. Et elle a dit aussi que c'était le plus efficace, c'était les techniques de balnéo, d'hydro-balnéothérapie. Et ça, statistiquement, c'est le plus efficace. Retrouver aussi des modifications des perceptions sensorielles du corps. Et là, le massage, la kiné vont aider à restructurer le logiciel sensoriel.
Serge Perrault.
En 2 mots, la fibromyalgie, c'est une désynchronisation du corps et du cerveau. Et il faut resynchroniser dans un sens et dans l'autre. On resynchronise du cerveau vers le corps par la méditation, par la relaxation, et du corps vers le cerveau par l'exercice physique, la balnéothérapie, tous ces moyens-là.
Carole Sereni.
En plus, il y a un système purement neurologique qui est que quand on a des sensations normales, ça diminue la douleur. Le simple fait, on le fait tous, si on se fait mal, on frotte son corps parce que on augmente les sensations normales et du coup, on sent moins la douleur. Et c'est ce qui se passe, le cerveau a des capacités normal pour inhiber la douleur. Le truc, c'est qu'on les a, mais on n'arrive pas à les mettre en route. Si on savait mettre en jeu nos capacités à inhiber la douleur, on serait tous comme les yogis, on pourrait s'asseoir sur des clous et on aurait pas mal. Mais on ne sait pas le faire. Et ces techniques aident un petit peu à mettre en jeu nos capacités naturelles.
Merci beaucoup Yann d'avoir témoigné. Marie, vous avez bienvenue. Vous avez une maladie auto-immune, et vous avez découvert la médecine chinoise.
Bonjour.
C'est ça ? Bonjour.
Oui, j'ai une maladie auto-immune, tout à fait. Je suis passée par beaucoup d'étapes douloureuses, physiquement et moralement, parce que j'ai été suivie donc dans des hôpitaux, dans différents hôpitaux à Montpellier, à Bordeaux pour cette maladie. Je vais essayer de faire très court, même si le parcours est très long.
Il nous reste une petite minute, hélas, Marie, mais je voulais juste savoir que vous avez apporté, vous nous l'avez dit au standard, la médecine chinoise. Vous nous dites même carrément que ça vous a sauvé.
J'ai tout arrêté parce qu'en fait j'avais des effets secondaires terribles avec mes traitements pour la maladie auto-immune, donc ça me créait des effets secondaires à côté. Donc je ne m'en sortais plus et j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise. Progressivement, ce praticien m'a proposé d'arrêter les traitements. Je souffrais tellement avec les effets secondaires que j'ai accepté. Même si j'avais un peu peur sur le moment, j'ai accepté, j'ai décidé de lui faire confiance. Et depuis, je revis complètement. Je ne prends plus aucun traitement. Ma maladie est toujours là dans mon corps, mais je fais plein d'autres choses à côté. Je suis sculptrice de mon métier,
donc
ça me porte aussi. Et voilà, et ça m'a sauvée. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait des passerelles entre les médecines, parce que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine où on a l'impression de devoir aller consulter en cachette. Et ça, c'est
Merci beaucoup, Marie. Je suis bien obligé, hélas, de vous interrompre, parce qu'il y a une édition spéciale qui va commencer dans quelques secondes. Merci beaucoup, Carole Serini. Je recommande votre livre « Douleurs chroniques et opiacées » au CERF. Merci, Serge Perrault. Votre livre, c'est La douleur, je m'en sors. Merci Patrick Géniez d'être venu. Demain, on s'intéresse à l'attachement avec le mensuel Sciences humaines.